France Inter. Le masque et la plume. Le misanthrope en smoking, une derviche tourneuse, Pierre Arditi en Nobel de chimie ou encore la vengeance d'un conseiller en com, ce sont quelques-uns des ingrédients de ce nouveau masque dédié à l'actualité de la scène. Pour en débattre, notre quatuor est de retour avec Pierre Lesquelaine de IO Gazette et du média en ligne Détective Sauvage dédié à la jeune création théâtrale, Fabienne Pascaud de Télérama, Laurent Goumard de Libération et France Inter et Sandrine Blanchard du journal Le Monde. Au programme, figure Golem d'Amos Gitaï, le misanthrope par Georges Lavaudan, le seul en scène de Clément Viktorovitch. Sur la communication politique, le duo Ludmila Mikhaël-Pierre Arditi, l'hommage chanté d'Estelle Meyer à Gisèle Halimi et les liaisons dangereuses avec une marquise de Merteuil en majesté. Le théâtre dans vos oreilles. Bonjour, bienvenue, c'est Le Masque. Salut les boomers, m'écrit Ninon sur Instagram. J'ai tellement ri en vous écoutant critiquer le dernier spectacle de Gad Elmaleh. Je précise que dans le courrier, cette auditrice est loin d'être la seule. Vous n'avez rien compris au talent de ce comédien capable de nous faire marrer en incarnant la flamme d'une bougie. Son texte n'est pas engagé comme vous le souhaitez, et alors ? Est-ce suffisant pour étayer une critique ? Sachez enfin qu'interpeller le public en disant « les amis » est parfois une convention du stand-up. Alors, à dimanche, les amis. L'autre spectacle musical, celui-ci, qui vous a mobilisé, c'est « Podom » avec Laure Calamy, adapté de la bande dessinée qui porte le même titre. Vos critiques de « Podom » ont été d'une violence totalement imméritée, à l'exception de Sandrine Blanchard, grâce à qui j'y suis allée, écrit Gaspard. Les compos de Ben Mazuet sont plus qu'honorables. La troupe ne se prend ni pour Hélène Ségara, ni pour Garou, et le message féministe n'est pas négligeable en ces temps troublés. Au contraire, Clara Fernandez affirme « Podom, c'est niais, surjoué et ça crie inutilement ». Céline Haber renchérit en qualifiant la pièce de farce triviale et pathétique. « Du théâtre au masque, enfin !» s'exclame Jean-Luc Parizel. « Marre du cinéma, quant au stand-up, c'est du divertissement !» Sur Instagram, au contraire, Noé remercie l'émission de mettre ce registre au programme. Le stand-up influence les séries, le cinéma, la littérature et remplit les salles de jeunesse, écrit-il. Au passage, je précise que le Théâtre National de Strasbourg consacre une semaine au stand-up, du 13 au 17 mai. Enfin, Philippe Camadreau d'Arvillers, dans le Maine-et-Loire, nous écrit pour la première fois pour te remercier de ton conseil, Laurent. Cet auditeur est allé voir Velvet de Nathalie Béas au carré de Château-Gontier en Mayenne et il a été ébloui par la beauté de ce spectacle. Il précise que ça se joue à Dijon les 23, 24 et 25 mai. Auditeur du Masque, courez-y. En tout cas, merci pour vos messages de plus en plus nombreux qui prolongent les débats. Et je termine avec ce mail de Romane Di Candido qu'il a intitulé « Mais coupez-vous la parole, bordel !» J'ai trouvé le dernier masque théâtre jubilatoire. Ça donne son avis, ça gueule, ça contredit, c'est vivant, c'est ça qu'on veut entendre. Soyez sauvages et criez-le. Sauvage donc, et on commence avec le misanthrope mis en scène par Georges Lavaudan en plus de 50 ans de carrière. C'est la première fois que Georges Lavaudan choisit Molière, en tout cas en français, parce qu'il avait dirigé un misanthrope en catalan il y a 15 ans. Et là, il a eu la bonne intuition de solliciter Éric Elmosnino pour camper Alceste, désespéré par les faux-semblants, en quête de vérité absolue et pourtant amoureux d'une brillante experte en mondanité, j'ai nommé Célimène. Tous les comédiens sont habillés en noir et blanc, smoking pour les hommes, robe de soirée pour les femmes. Un mur de miroir taché structure le plateau, donc les comédiens s'y reflètent et le public aussi. Selon les scènes, ce mur pivote et au verso, on est dans le dressing de Célimène avec des tenues magnifiques alignées sur les cintres. Ses costumes, comme la scénographie, sont signés Jean-Pierre Vigier, collaborateur de longue date de Lavaudan. Mélodie Richard joue Célimène, François Martoret est Philinte, Aurélien Recoin interprète Oronte, pour ne citer que quelques membres de la troupe, Éric Elmosnino en tête. qui, je crois, dit des alexandrins pour la première fois. Et Pierre, c'est à toi.
Alors, j'avoue que l'idée d'aller voir un énième misanthrope me rebutait un peu, mais pour moi, ça n'est pas un énième misanthrope. Je trouve que c'est un grand misanthrope. J'avais jamais entendu le texte d'une manière aussi fine, aussi complexe. D'abord, ce que j'aime, c'est
aussi moderne.
Oui, aussi, pour le personnage de Célimène. Ce que j'aime, c'est qu'il ne monte pas la pièce d'une manière moraliste. Il la monte d'une manière tragique. Il s'intéresse aux maladies existentielles des personnages. Et ce que je trouve très pertinent dans le spectacle, c'est qu'il a presque amputé la scène de sa moitié, puisque tout se joue à l'avant-scène. Les corps sont rapprochés. Et ce que ça nous raconte, c'est que tous les spectacles traversent en fait les mêmes choses, les mêmes peurs du vide, de l'abandon, de la vieillesse. Et Alceste n'est pas, comme souvent, une sorte de trublion qui fait son numéro dans son coin. C'est quelqu'un qui est rongé, mais de la même manière que plein d'autres personnages de la pièce. On n'est pas dans ce misanthrope de la société liquide, de l'individualisme qu'on nous montre souvent. Souvent, on montre ça comme un grand spectacle mondain, social. Et je trouve que ce spectacle-là est très fin parce qu'il ne condamne aucun personnage, il n'y a pas de cabotinage et il n'y a pas d'effet comique facile. C'est un grand sens du texte et un grand sens de la dramaturgie, je trouve, qu'on a là.
Tu es d'accord, Laurent ?
Absolument pas. Ah, moi, je trouve que c'est un spectacle. Je trouve que Lavaudan arrive trop tard pour Molière et qu'Eril El-Mosnino arrive trop tard pour les Alexandrins. Il est absolument complètement coincé dans cette diction. Il en fait chanter tout le temps.
Il est extraordinaire.
Je n'ai jamais accès au texte. Je n'ai eu jamais accès au texte.
Le concret des situations est
c'est d'avoir 60 ans et de jouer le rôle de quelqu'un qui a 30 ans, ce qui permet de refaire basculer la pièce, et c'est ça qui est intéressant sur Célimène. Et là, je suis d'accord avec toi, Pierre, je n'avais jamais entendu la partition de Célimène à ce point-là. Célimène, c'est celle qui va se soustraire à toutes les injonctions. On lui demande de parler, mais on ne l'écoutera jamais. Quel que soit le choix qu'elle va faire, ça ne va pas marcher. Et quand elle s'en va avec un demi-sourire sur l'air de solitude, ma douce joie, c'est elle qui gagne la partie. Et surtout, ce qui
est intéressant... Elle perd la partie. Alors.
Elle gagne la partie.
Elle gagne, Fabienne.
Alors là,
pervers narcissique
à tout le monde. Elle perd complètement.
Elle
est sacrifiée à la fin.
Ah non,
elle est abandonnée par tout le monde. Alors
elle n'est abandonnée par personne. Elle part d'elle-même.
Elle ne part pas. Elle reste immobile face à
la On n'a pas vu la même pièce.
Pas du tout. On n'a pas vu la même pièce, Fabienne. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que ce qu'on entend, ce que fait Célimène en réglant son compte.
Richard, elle est formidable. Dis son nom, parce que c'est.
On parle
d'Eric El-Mosnino, mais c'est elle.
Mais c'est elle. C'est elle la pièce. La pièce ne devrait pas s'appeler Le Misanthrope. Elle devrait s'appeler Célimène. Véritablement, c'est elle qui mène la pièce. À la fin, je suis désolé, c'est elle qui sort et qui gagne le théâtre. Et d'autre part, en réglant son compte à tous les personnages, elle fait exactement le programme que voudrait faire le misanthrope, puisqu'il les cherche à dire ses vérités à tout le monde. Et c'est elle qui le fait. Et je trouve que la modernité est dans ce personnage. Pour le reste, j'ai regardé la bague de Martouret, qui est excellent pendant toute la pièce, parce qu'il fallait bien s'intéresser à quelque chose.
Oh, quelle mauvaise foi, quelle mauvaise foi.
Fabienne.
Si tu trouves Célimène si extraordinaire, excellent. C'est que ses partenaires arrivent à la faire exister. Déjà, une comédienne ne peut pas être très bonne toute seule.
L'inverse est vrai aussi, non ?
Comment ça, à l'inverse ?
Mais je veux dire, Célimène fait aussi vivre les...
Eh ben oui, bien sûr, mais on ne peut pas être excellent tout seul dans un spectacle.
On est d'accord.
C'est quand même la meilleure. Moi, j'ai trouvé que c'était... vraiment, elle était à la fin totalement abandonnée, perdue. Moi, le regard qu'elle jette face au public, alors qu'Alceste l'a quittée pour partir dans le désert, alors que tous ses amants potentiels...
Elle renvoie tous les hommes à leur égoïsme.
Elle se soustrait à cette torture de partir dans le désert avec ce dingue.
Pas du tout une torture, on peut aller les jansénistes et Port-Royal et tout ça et ce royaume de la grâce. Oui, elle en a 40, mais le dit Richard, il a choisi de vieillir tous les personnages.
Oui, et moi ça m'a un peu dérangé personnellement, la différence d'âge entre les hommes et les femmes. Dans
ce non, elle n'est pas si exceptionnelle que ça, elle a 40 ans, El-Mosnino 60, dans la pièce c'est à peu près la même chose, c'est le pauvre Martouret qui en a 81.
Alors oui, entre 40 et 60 ans, il y a une petite différence quand même.
Moi, je vois partir Éliante et Philinte à la fin, j'ai du mal à y croire. Hein.
Avec une c'est pas une mise en scène réaliste.
Mais moi, ce que j'ai aimé dans le spectacle, c'est la mélancolie un peu tchékovienne que parvient à y mettre Lavaudan. C'est pas une tragédie, c'est pas une comédie, mais tous les personnages sont renvoyés à leurs contradictions. Parce que ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est la pièce des paradoxes. Alceste, qui rêve de solitude, est amoureux d'une mondaine. Elle, la mondaine, la coquette incarnée, elle est amoureuse d'Alceste. Donc, ça montre toute la complexité d'un être humain et combien il peut se contredire, et on arrive sur le rien, sur le néant, c'est presque beckettien cette fin.
Et j'aimerais passer la parole à Sandrine pour terminer cette
tribune. Moi je trouve que Lavaudan il a pris cette histoire trop au sérieux, et justement
Pourquoi Mélodie Richard, je trouve que c'est la meilleure, c'est qu'elle est formidable de justesse déjà, mais aussi de modernité, et qu'elle apporte une touche de drôlerie qui est quand même indispensable, parce que c'était quand même...
Mais El Mocino aussi,
il apporte... Eh bien, dans la première partie,
est drôle aussi.
Non, El Mocino n'est jamais drôle.
Si, je, si.
Les gens pensent qu'il est drôle, Laurent, il ne l'est pas.
Laisse-moi un
la
petit
pièce.
Moment, s'il te plaît.
Sandrine.
Je trouve que... Moi, je n'ai pas vu passer la première heure du spectacle.
Et la deuxième.
Alors, justement... Que le dialogue entre Philippe et le misanthrope, la scène du sonnet où vraiment El Mocino est génial, l'entretien houleux avec Célimène.
Aurélien Recoin aussi.
Et la discussion de salon, elle est très bien. Et puis après, moi je trouve que dans la deuxième heure, Éric El Mocino, il perd en nuance, il est presque trop habité, trop dépressif, et je trouve que cette deuxième heure, elle passe plus difficilement. Mais vraiment, j'ai fait la découverte d'une comédienne qui est Mélodie Richard, qui, moi, m'a subjuguée du début à la fin.
Ah ben pour moi, c'était le spectacle de la pièce, je suis vraiment raccord avec toi.
Après une création Montpellier et une tournée, Le Misanthrope, mis en scène par Georges Lavaudan, est au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris jusqu'au 30 mars, avant de nouvelles dates, la saison prochaine. Après les faux-semblants du jeu social, voici le cynisme de la communication politique, avec un homme qui connaît très très bien le dossier, puisqu'il fut assistant parlementaire, enseignant à Sciences Po pour des cours de rhétorique et de négociation. Il fut aussi chroniqueur sur France Info, Canal+, et il joue son premier seul en scène. Je veux parler de Clément Viktorovitch et de son spectacle « L'art de ne pas dire » ou « Comment désespérer de la communication politique contemporaine ». Sur un plateau quasi nu, avec seulement trois grandes bandes blanches verticales comme des colonnes, Clément Viktorovitch incarne le conseiller en com d'un député qu'il a contribué à faire élire président de la République. Comme le nouvel élu l'a viré pour malversation financière, il décide de se venger avec la conférence à laquelle on va assister. La mise en scène est de Ferdinand Babet, qui a aussi coécrit le texte, et pendant 1h15, Clément Viktorovitch révèle et décortique tous les secrets du langage politique en faisant participer le public avec succès. Est-ce que tu as marché, Laurent ?
J'ai détesté. Je crois que c'est le spectacle le plus antipathique que j'ai vu cette saison. C'est-à-dire, tu dis, il n'incarne rien. Alors, bien sûr, c'est une bonne idée de déconstruire, comme on dit aujourd'hui, le discours politique qui multiplie les éléments de langage. Ça raconte une dérive démocratique, tout ça, on est bien d'accord. Mais ça fait un spectacle pédagogogo, c'est-à-dire que moi, j'en ai ras-le-bol de ces spectacles. Soit on est à la maternelle, soit on est dans un EHPAD, soit on est dans un cours de classe avec un prof qui est fou de lui-même. Parce que ce type n'a absolument pas accès au théâtre. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun théâtre. C'est guignol. Ce personnage de conseiller
c'est
n'existe pas. Il n'y a
Laurent.
Pas de conférencier.
Et il
n'existe
le dit.
Pas.
Ça se présente comme une fiction.
Il n'y a
mais...
pas d'acteur. C'est juste un type qui est dirigé par un coach qui lui sert de metteur en scène et qui voudrait nous faire croire qu'il joue sur une scène. Mais certains sont dupes, d'autres pas, je peux vous l'assurer.
Avec le charisme d'une huître.
Mais il est catastrophique. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'arrête pas de dire... Le texte est écrit à la plume, enfin c'est horrible. Il n'arrête pas de dire de grâce, comme si on se croyait chez Molière. Ça s'appelle l'art de ne pas dire de grâce, j'aurais vraiment pas aimé que ça s'appelle l'art de se taire. J'ai trouvé que c'était... C'est le premier spectacle podcast que j'ai vu, en fait.
Bon, je suis pas Sandrine, du tout d'accord avec, Sandrine. Je suis pas du tout d'accord avec Laurent. Moi, je trouve que j'ai trouvé ça passionnant, éclairant et assez désespérant. Alors, pour tout vous dire, moi, ce spectacle, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu à sa création.
Deux fois.
Oui, je l'ai vu deux fois, Laurent. Je l'ai vu deux fois. Je suis consciencieuse.
Bravo.
Et un peu maso.
Non, mais je l'avais vu l'année dernière à sa création au Théâtre Le Pic, qui est un théâtre beaucoup plus petit là, que là où il joue au Théâtre 13 dans une immense salle.
Il est sonorisé.
Mais
c'est,
pourquoi ça, c'est il difficile. Joue
et
pourquoi
je,
il joue
Sandrine. Non, Sandrine. Je pense que ce spectacle ne supporte pas une grande salle comme ça. Parce que notamment, tous les moments d'interaction avec le public, qui sont d'excellents moments, fonctionnent beaucoup plus difficilement dans une grande salle. Au-delà de ça... Effectivement, ce n'est pas du théâtre, c'est une conférence, comme peuvent le faire Frédéric Ferrer sur le climat ou le duo belge
avec une esthétique supérieure quand même.
Il y a quand même de Cyril Hanouna.
Pardon.
Quand il fait jouer la salle, c'est digne de Cyril Hanouna, ce qui
pas du tout.
Bon.
Alors, pas du tout. Franchement, on est quand même très très loin de ça. Moi, je trouve que
il y a deux moments
quand même très très forts, qui est le premier discours de candidature. Et puis celui de la conférence de presse suite aux accusations d'agression sexuelle du candidat, je trouve que le discours est remarquablement bien écrit et que c'est efficace, quoi. Effectivement, c'est pas un comédien, il a une démarche pataude, mais je trouve que c'est une conférence utile. Moi, qui suscite la réflexion, qui ne s'oublie pas et qui fait écouter
mais qu'il en fasse des chroniques, qu'il en fasse des
livres,
cours pour ses élèves.
Mais non, la conférence théâtrale, c'est un genre, Laurent, qui existe.
Et il s'est inspiré d'ailleurs de l'exoconférence d'Alexandre Astier.
Oui, alors on est très loin.
Oui, mais Alexandre Astier, c'est un acteur.
Alexandre Astier est un acteur.
Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Laurent. Je trouve qu'il n'a... On se demande pourquoi il monte en scène, pourquoi ce démon de jouer la comédie alors qu'il n'a rien. Il n'est pas foutu d'incarner un personnage. Il est... Certes, il déconstruit bien le discours. J'ai lu son livre après... consciencieusement comme toi, Sandrine, mais bon, le livre suffit à lui-même. Pourquoi avoir envie, si ce n'est par un narcissisme démoniaque, de se montrer en scène ?
Mais c'est exactement
pitié
ça.
Pitié !
Là, de
je
grâce.
Suis d'accord. Je trouve que cette forme de conférence peut avoir son utilité et faire comprendre encore différemment les choses.
Mais il y en a marre des spectacles pédagogos, Sandrine.
Comment ça, il y en a
de
marre
grâce.
Des spectacles pédagogos quand c'est bien fait, pourquoi pas ?
Mais, ce n'est pas bien fait, justement.
Les conférenciers prétentieux.
De grâce, laissons la parole à Pierre Lesquelène. Je vais me mettre à siffler. En fait,
bon, malheureusement, je ne vais pas amener beaucoup de dissensus. Ça a été très dur pour moi aussi, ce spectacle. Je trouve qu'on est dans une esthétique d'un spectacle d'hypnose de seconde zone pour comité d'entreprise.
Mais si, c'est
oh
ça.
Là.
Et quand on veut se la jouer grand mage, cette espèce d'is no good, démurgique, là, qui vient nous révéler la vérité, surtout, même dans le fond, pardon, mais qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'il y a de la rhétorique dans la rhétorique. Mais merci, franchement, quel scoop. Alors, je sauverais quand même, je ne sais pas si vraiment sauver, mais dans le dernier quart d'heure du spectacle, le discours m'a un peu plus intéressé, parce qu'on n'est pas dans cette espèce de condamnation nihiliste de la langue de bois. Il réfléchit un peu
les
plus sur...
D'engage.
Comment la langue politique a évolué aujourd'hui, en fait. Et là, il y a des propos sur la question du dialogue de muet, etc., qui m'ont un peu plus intéressé. Mais je suis d'accord avec vous, ça n'est pas théâtral et ça n'a rien à faire sur une scène.
L'art de ne pas dire, de et avec Clément Viktorovitch, sera à Goussainville le 1er avril, à Épinal le 26, à Lille le 29. Et avec le succès, beaucoup de dates sont déjà complètes, si bien que la tournée reprendra dans toute la France entre décembre 2025 et avril 2026. Je précise enfin que le texte qu'a lu Fabienne Pascoe, coécrit avec Ferdinand Barbet, est disponible aux éditions du Seuil. On va maintenant parler de Golem, du cinéaste et homme de théâtre israélien Amos Gitai. Le Golem, c'est cette créature de la culture juive qui, je cite Gitai, est inventée par l'être humain pour lutter contre les persécutions envers les juifs. Dans la culture pop, par exemple, les super-héros sont une déclinaison de cette figure du golem, des créatures qui protègent les hommes à condition de les désactiver quand il faut. Le golem est le fil rouge de ce spectacle, composé de 12 tableaux. C'est un montage de textes religieux, littéraires, notamment du prix Nobel Isaac Bashevis-Singer. Il y a aussi des extraits de films de Gitai lui-même et des chants. C'est un spectacle très musical, avec 3 musiciens, pianistes, violonistes, percussionnistes qui sont sur scène pendant toute la pièce. Donc ce montage crée des ruptures de ton. Il y a le récit de l'horreur des pogroms, il y a la douceur du conte porté par Irène Jacob, de l'humour, du burlesque avec Michel Esco. La distribution est internationale et on entend le texte en yiddish, allemand, arabe, espagnol, hébreu, ladino, russe et évidemment le tout est sous-titré. Fabienne.
Franchement, je sais que le golem, c'est une figure qui obsède Amos Gitai, puisqu'il en a fait 3 films. Ouais. Arrête, Amos, arrête de t'intéresser au golem, ou alors fais-en autre chose, parce que là, c'est une sorte de patchwork qui mélange les formes. Il y a même un moment des vêtements qui tombent sur scène, comme une installation de Bolkonski.
Ça, pour le coup, c'est très réussi, ça.
Très beau.
Oui, mais enfin,
très beau.
C'est peut-être beau, mais c'est pompé.
Et c'est poignant, même, je trouve.
Oh, ça n'a rien d'original. On a vu ça 1000 fois dans toutes les expos de Boltanski.
Oui,
donc,
mais justement...
voilà. Donc, il pique à droite et à gauche.
Je pense qu'il y a une référence.
On ne sait pas bien où il veut en venir. On pense sans arrêt au 7 octobre. En même temps, il dit que toutes les minorités sont concernées. Il dit à la fin, après avoir fait s'expliquer bêtement tous les comédiens, je suis juif, je ne suis pas juif, mon père...
Oh, c'est pas bête.
Ah, mais c'est du pathos.
Il est mauvais pathos. Ce dernier
et alors, la fin, il faut résister.
Alors, ça, c'est le pire qui soit.
C'est le pire.
Oh, mais c'est
la littérature, le théâtre ou l'art, voilà, c'est un lieu de résistance.
Oh, les bras m'en sont tombés. Alors, quel cliché.
Ah bon, mais je croyais...
On dirait un discours de Miss France. Enfin, c'est pas possible.
Exactement.
Mais c'est vrai. Mais c'est
pas vrai, Laurent. Je croyais que le spectacle ambitieux n'est qu'un cliché.
Je croyais que tu avais aimé, Laurent.
J'ai aimé le spectacle. En effet, c'est un patchwork, mais comme le golem, comme la créature de Frankenstein, c'est-à-dire un collage. La créature, le golem, est faite d'argile. Et là, c'est un spectacle sculpté avec, en effet, plein de références.
Ça
ne m'a pas gêné.
Mais on
nez paumé, un foutoir comme ça, qu'il y ait plein de références. Pourquoi pas ? Cette esthétique, d'ailleurs, est plus liée qu'autre chose par la partition musicale, qui est excellente, oui, qui est vraiment mais très très belle. Une partition musicale qui ne s'arrête pas quand les acteurs parlent, ce qui fait que ça vient non pas soutenir, pas accompagner, mais donner une sorte de contrepoint dramatique. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une science de la mise en scène. La référence à Boltanski, très belle, elle marche, et c'est une référence complètement revendiquée. La seule chose qui m'a dérangé, je crois qu'à un moment donné, c'est la suffisance d'Amos Gitai, qui se cite lui-même avec un extrait de 10 minutes, très long. 15 minutes d'un de ses propres films, et surtout la fin, avec ce discours de Miss France, l'art est là pour la résistance. Ça m'a fait réévaluer quelque chose à la baisse, alors que j'ai adoré par exemple la partition de Laurent Naouri, baryton basse et acteur, que j'ai trouvé prodigieux.
Mauvais acteur là.
Ah non, je n'ai pas trouvé.
Sandrine ?
Alors, moi je ne suis pas d'accord avec Laurent sur la fin, parce que tu peux dire que c'est une tarte à la crème entre guillemets, mais moi je trouve que ça va toujours mieux en le disant quand même, et que ce dernier quart d'heure, pour le coup, moi j'aurais aimé qu'il soit plus long, parce que à des moments j'étais complètement paumée en fait. Je trouve que ce spectacle est confus, que ça mélange des textes d'ordre très différent, de contes, de discours. Et puis en termes de mise en scène, il y a quelque chose qui m'a énormément gênée, c'est que à des moments quelqu'un parle et on cherche qui est-ce, d'où où il est.
C'est beau, non ?
C'est une nuance.
Non, moi ça me gêne énormément. Et puis les acteurs, ils sont un peu réduits au rôle de récitants. Heureusement que Michel Escaut, de temps en temps,
a des choses. Bon, Michel Escaut. Ah, c'est la première fois que je le vois mauvais dans un spectacle.
Bah écoute, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit heureusement qu'il était là. Moi, j'étais un peu paumée, j'ai trouvé ça hermétique, je suis tombée parfois dans un état un peu de torpeur.
ça veut dire
généralement,
j'ai un peu
c'est
dormi.
Moi qui dors.
Voilà, et il y a des choses que j'ai pas compris, et c'est à l'image aussi de ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a ce décor pendu qui descend à moitié, mais jamais complètement, toute cette, une certaine pagaille sur la scène, l'écran, enfin...
Est-ce que
voilà, ça manque de clarté, quoi.
Est-ce que tu t'es retrouvé dans cette bagaille, toi, Pierre ?
Parler de suffisance, moi, je parlerais de complaisance aussi, c'est-à-dire que je trouve que c'est une douleur d'un artiste qui justifie en permanence que n'importe quel fragment de théâtre soit forcément lyrique, soit forcément grave, soit forcément puissant. Et je trouve qu'il y a une idée assez vieille, pour moi, de théâtre total, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il faut que toutes les arts se rencontrent, mais d'une manière qui est très volontariste, en fait, je trouve, et qui, dramaturgiquement, n'est pas très abouti. Et je pense qu'il y a beaucoup de défis techniques dans ce spectacle, et moi, j'ai trouvé que les acteurs et les actrices étaient un peu en roue libre face à tout ça. Et non, moi non plus, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ce Golem.
Golem d'Amos Gitai, c'est au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 3 avril. Le spectacle suivant est rythmé par les rires du public et surtout par ses hauts d'indignation, réjouis. Je veux parler des Liaisons dangereuses adaptées du roman épistolaire de Laclos. La mise en scène et l'adaptation sont signées Arnaud Denis, qui a eu l'audace de couper le texte, parfois de le réécrire, d'y ajouter des éléments en piochant dans le Marquis de Sade, Molière ou Racine. Il y a donc quand même les amours infernales du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil, son désir de vengeance à elle, sa soif de séduction destructrice à lui, avec la jeune Cécile de Volanges et avec Madame de Tourvel. Le décor est fait de bougies, de toiles peintes. Les comédiens jouent en costume fin 18e, perruqués et poudrés pour certains. J'aimerais citer la plupart d'entre eux parce que je les ai trouvés épatants. Delphine Depardieu en Merteuil, Valentin de Carbonnière en Valmont, Michel André qui joue la douairière Madame Rosemonde, Marjorie Dubus pour Cécile de Volanges et Salomé Villiers en Madame de Tourvel. Sandrine ?
Moi je trouve que c'est du théâtre classique de haute volée, élégant, simple. Même si on a déjà vu les Liaisons dangereuses, qu'on garde en mémoire le film avec Glenn Close et John Malkovich, eh bien, ça m'a à nouveau captivé.
Surtout qu'on on l'entend différemment.
On l'entend différemment. 2025. Moi, j'ai trouvé vraiment l'adaptation, le texte extrêmement réussi. On l'entend vraiment très, très bien. Bien évidemment, les comédiens y sont pour beaucoup, mais il y a vraiment une beauté de la langue formidable. Il y a une formidable aussi direction d'acteur. Et c'est Delphine Depardieu qui a eu le prix du brigadier pour ce rôle, qui est largement mérité. Elle est vraiment magistrale. Moi, elle m'a fascinée, elle m'a troublée. Et puis Valmont en séducteur malsain. Vraiment, je trouve que c'est du très bon théâtre classique.
Pierre ?
Bon, moi, j'ai eu un tout petit peu peur au lever du rideau avec cette esthétique un peu classico-kitsch, polypocket.
Ah non, où, pas kitsch.
Il y a des perruques, il y a des faux raisins fluo, il y a des toiles peintes un peu froissées. Bon, voilà. Mais passé ça, je suis assez d'accord. Moi, j'ai complètement marché. J'ai trouvé qu'on a tout ce qu'on attend avec les liaisons dangereuses, toute l'imagerie, toute la jouissance de l'immoralité qu'on doit avoir. Mais j'ai trouvé que c'était assez fin parce que progressivement, notre empathie vacille. C'est-à-dire que je pense qu'Arnaud Denis, ce qui l'intéresse aussi de montrer progressivement, c'est la souffrance des victimes de Valmont et Merteuil. Et même la chute de Merteuil, finalement, elle est un peu expédiée parce que ce n'est pas cette tragédie-là qu'il a envie de nous montrer. Alors, cela dit, la réception du spectacle, je l'ai trouvée difficile parce que, bon, Rebecca, tu en es témoin, on était derrière des personnes, des femmes de 60-70 ans qui riaient beaucoup à des scènes, voire à des récits explicitement montés comme des récits de viol. Et ça m'a beaucoup interrogée sur la manière dont on peut faire recevoir un texte comme ça dans ce contexte-là. Mais tout est au crédit du spectacle. Je trouve que le spectacle est complexe, en fait.
Laurent ?
Je crois que j'irai dans la même direction que vous deux. Moi, le spectacle m'a plutôt convaincu. Le fait qu'il soit justement perruqué, costumé, 18e, ne m'a absolument pas gêné. Je trouvais que c'était d'ailleurs un bon parti, une sorte d'antidote à ce que l'on peut voir par ailleurs et par exemple dans le Misanthrope de tout à l'heure. Non, ce qui m'a intéressé aussi, c'est en effet le personnage de Merteuil avec cette phrase qui résonne très 2024-2025. Je suis né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre. Ça m'a fait penser à Annie Ernaux. Je suis venu pour venger ma race. J'écris pour venger ma race. Il y a quelque chose, non pas d'actuel, c'est ça, c'est du 18e, c'est une langue du 18e, mais qui aujourd'hui, en étant entendu en 2024-2025, a une autre portée. Ouais. Et les acteurs, c'est vrai, sont vraiment assez virtuoses, formidables. Et le passage, justement, où Merteuil raconte la raison pour laquelle elle met tout ça en jeu, c'est-à-dire de lutter contre elle, contre son propre sexe et contre tous les hommes, est absolument poignant.
Oui,
et elle
m'a vraiment subjugué. C'est ça qui est intéressant, il s'intéresse. Mais c'est Merteuil, pourquoi, comment elle peut en arriver là, quoi. Ouais.
Fabienne, pour terminer.
C'est jamais qu'une nuit de noces ratée, hein, c'est pas non plus.
C'est un viol.
C'est un viol, Fabienne.
Ça s'appelle un viol conjugal.
Ah, oui. C'est un viol conjugal, oui, oui, d'accord. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à ce spectacle. Il y a le plaisir des costumes, des toiles peintes, des perruques. C'est joliment fait, l'adaptation est intelligente et elle met encore une fois l'accent sur l'aujourd'hui, quoi. C'est sans arrêt des clins d'œil à, comme vous disiez, 2024, 2025, MeToo, les femmes, le féminisme.
Oui, mais c'est fait avec finesse. Ah, oui, c'est non. Pas martelé.
Ouais. Oui, franchement. Un peu, quand même.
Ah, moi, j'ai trouvé que ça n'était pas... Ça n'était pas là pour prêcher les convaincus.
Je suis moins convaincue par Valmont, qui, pour moi, est une créature diabolique. Là, j'ai trouvé un peu mou Valentin de Carbonnière. Bon, moi, j'en serais pas tombée éperdument amoureuse si j'avais été...
Bah, tant mieux, parce qu'il a pas l'air très sympa.
Ouais. Les Liaisons dangereuses, adaptées et mises en scène par Arnaud Denis, c'est à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'en juin au moins. Niquer la fatalité, c'est le titre du spectacle suivant, un seul en scène écrit, joué, chanté et co-composé par Estelle Meyer. L'allié qu'Estelle Meyer s'est choisi pour niquer la fatalité, c'est Gisèle Halimi, dont elle convoque le fantôme sur scène. Elle joue des moments de sa biographie, elle interprète des extraits de ses plaidoiries historiques, elle invente un dialogue avec elle. Et à cette présence de Gisèle Halimi, Estelle Meyer mêle un récit intime de sa naissance à ses 37 ans d'aujourd'hui. Elle livre ses premiers émois, les transformations de son corps, la première relation sexuelle, les virées, la nuit entre copines, l'extase, l'horreur du viol encore, la réconciliation rêvée, il y a du jeu, des chansons, je l'ai dit, et aussi des adresses au public qui deviennent des rituels collectifs. Pierre ?
Moi, j'ai bien aimé ce spectacle. J'aime l'authenticité, en fait, de cette interprète qui déploie ici toutes ses potentialités, en fait. Moi, j'ai parfois du mal avec ces spectacles un peu exagérément cathartiques où tout à coup la libération est aussi explicitement mise
là,
en scène.
Complètement cathartique.
Complètement. Et ça doit être un grand remède pour toutes et tous. Mais là, il y a tellement d'authenticité, tellement de joie dans ce spectacle que je me sens complètement reliée à elle. Je ferai le lien avec Amos Gitaille parce que Amos Gitaille dit qu'il fait un spectacle avec le cœur. Et moi, je me sens coupée de son spectacle. Elle, je suis constamment reliée à elle et je trouve que son écriture est quand même très didactique, mais très intelligente, parce que elle ne se réduit pas à Gisèle Halimi, elle ne se compare pas complètement. Il y a ces deux femmes qui sont mises dans une filiation complexe, et je trouve que c'est un très beau spectacle.
Est-ce que toi, tu t'es sentie directement reliée à Estelle Meyer, Fabienne ?
Pas du tout.
Ah mince.
Pas du tout. Moi, je dois dire que pour moi, c'est une caricature. Alors, j'évoquais à travers la pauvre marquise de Merteuil, vraiment repoussée du côté de MeToo, mais alors là, les spectacles féministes à ce point, revendiquant la parole des femmes, je l'aurais vu à la création il y a 3 ans. Je pense que j'aurais trouvé ça énergique, dense, formidable, militant, engagé. Là, ras-le-bol, quoi. Je n'en peux plus.
Ça dépasse la question féministe. C'est comment on mais peut non. échapper au cadre qu'on mais a prévu pour nous et ça touche tout le monde.
Ça n'échappe pas du tout. Elle raconte sa vie, son destin, en expliquant à quel point elle est manipulée, asservie, violée, donc douloureusement, ça c'est vrai, la pauvre. Et puis alors, Gisèle Halimi, au secours. Ça fait 2 spectacles à Paris qui concernent Gisèle Halimi. Je vois à votre silence que je vais dire une énormité. C'est une féministe formidable qui a fait énormément pour les femmes, qui a été la première à faire criminaliser le viol, à nous amener vers la dépénalisation de l'avortement, la loi Veil, etc. Mais c'est pas Saint-Thérèse d'Avila non plus, quoi. Et là, c'est sans alors, arrêt c'est ce mieux dialogue.
Elle n'y idéalise pas.
Non, c'est pas mieux que Saint-Thérèse d'Avila.
Mais surtout, ça marche
là,
pas,
en fait. En permanence, ce dialogue avec Gisèle Halimi, cette référence à Gisèle Halimi, au secours. Mais Estelle Meyer chante admirablement et j'aime bien son écriture et ses poèmes.
Et il
ne
faut pas oublier les musiciens qui sont avec elle.
Qui sont vraiment formidables.
À savoir Grégoire Le Touvet au piano et Pierre Demange à la batterie.
Et qui a quand même une dimension un peu musicale dans ce spectacle.
Cabaret, c'est ça.
Qui n'est pas désagréable.
Ça convoque plein de formes. C'est-à-dire alors, que
mais elle joue toujours sur le même registre de
l'énergie hystérique. Mais moi, je trouve que le dialogue avec Gisèle Halimi dans la première partie du spectacle, il ne fonctionne pas, il est confus, il n'est pas au point. Je suis comme Pierre, moi j'aime beaucoup la singularité de cette comédienne, sa voix à la Camilla Jordana, elle est vaillante, elle a une présence vraiment ardente et puis on sent qu'elle, oui, elle fait vraiment ça avec le cœur, ça c'est certain. Mais par contre, le côté thérapie collective, chamanique... Quand elle fait la derviche,
je me suis demandé si Laurent avait participé à cette.
Quand elle fait la derviche,
j'ai pensé à toi quand j'ai vu toutes les bougies.
Oui, je me suis dit,
va saluer son voisin comme à l'église en plus. Hein.
Non mais alors quand elle fait la derviche tourneuse, c'est ce moment est
très très beau,
formidable. Mais après moi tout le côté chamanique, tenez-vous les mains, on met les bougies, on tape le tambour et tout. Là, j'avoue que il y a un côté too much qui m'a.
Mais non, parce que c'est ludique, serrais les en fait. Poings, je n'avais absolument pas envie d'être.
Ouais, mais ça reste pas
contacté
ludique.
Par mon voisin, c'était absolument atroce. Oui, j'avais l'impression d'être complètement prisonnier d'une folie intérieure et qu'on participait à une thérapie de groupe. Mais pour autant, c'est vrai que la joie qu'a Estelle Meyer d'être sur un plateau est vraiment communicative et elle est authentique.
Alors moi c'est pas la prime.
Moi c'est pas la prime à l'authenticité.
Non, c'est pas que la joie des succès, c'est aussi vérité. La joie d'avoir un corps de femme.
Et
il y a aussi ça.
Une vérité d'actrice. Après, dans son discours, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu confuses. On ne comprend pas vraiment un où elle veut en venir. Bah, qui me gêne pas plus que ça, parce que moi elle nous fait pas la leçon. Tout. Et par exemple, à un moment donné, elle revient sur le parcours de combattante des femmes victimes de harcèlement, de viol. Elle raconte qu'une femme devient femme dans son expérience personnelle aux violences qui lui sont faites. J'avais noté cette phrase. Femme, c'est quand on te klaxonne et quand on te regarde. Et un peu plus loin, elle va essentialiser les femmes avec la figure à Niké. Niké, c'était la déesse de la victoire chez les Grecs. Et là, ça m'a un peu gêné dans ce positionnement un petit peu confus, mais pas plus que ça. J'ai pas boudé mon plaisir, sauf au moment où il avait fallu saluer son voisin. Et là, j'avais juste envie
elle
de sortir précipitamment.
Elle assume complètement d'être dans un féminisme essentialiste. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Essentialiste ou pas, oui.
Niquer la fatalité d'Estelle Meyer sera à la Maison de la Culture de Créteil du 27 au 29 mars, au Théâtre de Cornouailles à Quimper les 15 et 16 mai ou encore au Théâtre National de Nice les 20 et 21 mai. Alors d'autres dates sont précisées sur le site du Masque et j'ajoute que ce spectacle a aussi fait l'objet d'un podcast sur France Culture. Il porte le même titre, Niquer la fatalité. Il compte 6 épisodes que vous pouvez écouter gratuitement via l'appli Radio France. On termine par le duo Ludmila Mikael Pierre Arditi avec Le Prix, une pièce que Cyril Joly a adaptée de son roman et qui est mise en scène par Tristan Petit-Girard. Le Prix est inspiré d'une histoire vraie, celle de l'Allemand Otto Hahn, lauréat du Nobel de chimie en 1944. Quelques heures avant la remise du prix, Lise Meitner le rejoint à son hôtel, non pas pour le féliciter, mais pour lui rappeler ce qu'il lui doit. « Je ne veux pas disparaître sans m'expliquer avec toi », c'est ce qu'elle lui dit. Lise Meitner fut une scientifique autrichienne, juive, qui a très largement contribué aux découvertes d'Otto Hahn sur la fission nucléaire et qui s'est réfugiée à Stockholm pour échapper au nazisme.
Le titre de la pièce, le prix, renvoie donc autant à celui que l'on reçoit qu'à celui qu'on doit payer. Et c'est la première fois que Ludmila Mikael et Pierre Arditi forment un duo sur scène. Laurent, est-ce que ça t'a plu, ce duo ?
D'accord.
C'est une histoire comme on en voit beaucoup, et je crois que j'en ai aussi ras-le-bol, comme toi Fabienne, oui, de ces histoires de femmes,
Laurent,
qui ont été effacées par l'histoire.
Laurent, on va énormément au théâtre, ce qui n'est pas le cas de
à longueur de séries télé ou de films sur France 3.
C'est la même histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire édifiante d'une femme qui a été effacée par l'histoire. Mmh. Et là, doublement effacée, elle a été effacée en tant que femme, ce qui est déjà douloureux, et effacée en tant que juive, puisque en fait, celui avec qui elle travaille sur la fission nucléaire va la faire exilée sous la pression du parti nazi à l'époque. Mais en même temps, elle voit ça comme un effet, le fait que lui va pouvoir se réapproprier le travail qu'il devait co-signer tous les deux. Donc ça, c'est la belle histoire édifiante d'une femme effacée par l'histoire. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. C'est ça, le problème. On passe du fauteuil A au fauteuil B. Bon, cette fois-ci, on ne se sert pas de cognac. Généralement, on sert toujours un cognac dans ce genre de mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les acteurs. Et là, on n'est pas déçu. Il y en a un qui cabotine. Mais est-ce que quelqu'un va pouvoir enfin diriger Pierre Arditi ? Est-ce qu'il va arrêter de faire des clins d'œil au public pour donner une dimension comique et se raccrocher ?
Il cabotine
à mort. Il cabotine à mort. À mort. Alors qu'elle, elle est à côté. Mais c'était une joie de la regarder. Elle invente des gestes tout le temps, des micro-gestes. Elle reprend.
Elle a le beau rôle aussi. Elle a le beau rôle.
Pas que ça. Elle arrive à donner une humanité et surtout un jeu, mais qui passe partout, quoi. Enfin, elle m'a passionnée.
Sandrine, toi, tu as été convaincue par le jeu de Pierre Arditi ?
Pas convaincue. Non. J'irai peut-être pas jusque-là, mais je suis pas d'accord qu'il est dans le cabotinage. Je trouve qu'il est très bon dans ce personnage lâche et de mauvaise foi. Il y a un truc qui m'a gêné. Alors, on entend ses pieds traîner. Et ça, j'avoue que ça m'a un petit peu obsédé par... ça m'a vraiment dérangé. Non, là où
vrai,
je suis d'accord
c'est pas,
avec Laurent,
c'est, détail, c'est, vrai.
C'est la question de la mise en scène. C'est que, en fait, il aurait fallu déjà un autre décor parce que ces salons, vraiment, c'est plus possible. Et puis, avec ces gros bouquets de fleurs en fond, enfin, on n'en peut plus de ces décors. Et puis, surtout, il aurait fallu tout recentrer sur ce face-à-face. C'est-à-dire que le personnage de la femme du chimiste, enfin, du personnage de Pierre Arditi, ouais, qui apparaît au début et à la fin, ça ne sert à rien. Et moi, trouver un décor plus inventif, une mise en scène plus inventive, et ne se concentrer que sur ce face-à-face. Après, je suis d'accord, Ludmila Mikael, alors, elle est de plus en plus intéressante au fil du spectacle. En fait, plus ça va, plus elle est vraiment formidable. Et puis, il y a un autre truc qui m'a gênée aussi, c'est les costumes, que j'ai trouvé moches, et qu'elle, elle n'est pas aidée
c'est
par son costume.
C'est en 46.
Elle n'est pas aidée par son costume. Non, mais où elle est toujours dans cette position très souvent, où elle a ses mains dans ses poches devant. Là. Enfin, moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Enfin, bon, c'est un petit détail. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un quart d'heure de trop. C'est-à-dire que ça tire en longueur et qu'à la fin, à un moment donné, on a compris et qu'il faudrait que ça s'arrête beaucoup plus tôt.
Moi, je voudrais juste ajouter une chose. Ludmila Mikael joue avec Pierre Arditi et lui, il joue pour le public. C'est ça qui m'a gêné.
Je ne suis pas d'accord avec
Pierre.
Je vous trouve gentil. non, mais moi, je suis très gênée par le spectacle. Je trouve que ça fait des années que le théâtre privé capitalise sur la Seconde Guerre mondiale, qu'on en tire des petites situations pleines de cruauté, de trahison humaine, des petits drames psychologiques comme ça. Moi, ce qui me gêne dans le spectacle, c'est plutôt un problème idéologique, c'est que la question de l'antisémitisme, qui est quand même le fond, quand même, l'arrière-fond du spectacle, elle n'est pas traitée, elle devient une sorte de ressort dramatique. On se demande ce qu'il y a bien eu dans la tête de cette auto-Anne.
On ne parle que de ça, Pierre.
Comment ?
On ne parle que de ça.
Ah ben non, je trouve qu'on n'en parle pas, justement. On parle d'un homme, vous l'avez dit, lâche, de mauvaise foi, mais on n'affronte jamais les raisons potentielles de ce qu'il a fait par rapport à cette femme. Et je trouve que, non, cette pièce...
Ah ben si, il n'arrête pas de dire « je t'ai sauvée » en te disant de partir. Enfin, elle fuit parce qu'elle est juive et autrichienne et qu'à un moment donné, c'est plus possible pour elle de rester.
Lui, il l'a fait partir pour avoir le...
Il la chasse.
Enfin bon, pour moi, la question idéologique d'antisémitisme n'est pas traitée et voilà, ça me gêne fondamentalement.
Fabienne ?
Moi, c'est plutôt le côté cheap un peu du théâtre privé aujourd'hui qui n'a plus d'argent. Alors, Cyril Gelly, il excelle, il ne fait quasiment que des duos. Hein. Il avait fait Diplomatie avec Arestrup et Du Soleil.
atelier, ça avait bien marché. Il avait fait signer Dumas aussi avec un couple d'acteurs stars. Là, ça fait vraiment petite chose à bon marché avec des décors tristounets. Enfin, moi, c'est plutôt ça qui m'a troublée. On demande maintenant, on demande aux auteurs de faire ce style de spectacle où on ne sent plus le désir, d'autant que Pierre Arditi joue un peu comme à la maison, quoi.
En traînant les pieds. Il joue en traînant les pieds.
Il aurait sa robe de chambre et ses pantoufles, il ferait le même bruit, Sandrine.
Non, mais c'est vrai.
Le prix avec Ludmila Mikael et Pierre Arditi, mis en scène par Tristan Petit-Girard, c'est au théâtre Héberto à Paris jusqu'en juin au moins. Et c'est l'heure de vos coups de cœur avec un tour de table qui commence par toi, Pierre.
Alors moi, je vous recommande un festival qui se passe à Tours du 28 au 30 mars, le Festival Wet, qui est un festival de jeunes créations qui a la singularité d'être programmé par des jeunes acteurs et actrices associés au théâtre. Il a été créé il y a 9 ans par Jacques Vincé, François Chaudier et désormais sous la houlette de Bérangère Ventusseau, ce CDN, qui perpétue un festival très éthique parce que c'est un festival qui n'est pas concurrentiel et dans lequel on passe un moment de vie très intense.
Le Festival Wet, donc à Tours, du 28 au 30 mars. Sandrine.
Alors, moi, je vais vous parler d'un spectacle que j'avais découvert dans le Off d'Avignon et que je suis allée revoir au Théâtre Paris-Villette, qui s'appelle Le Poids des Fourmis. Et vraiment, je trouve que c'est une satire politique et écologique sur nos angoisses collectives face à l'état de la planète. Et ça nous vient d'une troupe québécoise. C'est bourré d'humour, d'exubérance, c'est caustique, ça confronte en fait une jeunesse qui veut essayer de s'engager et de rêver face à des adultes qui font l'autruche. Et tout ça se joue sur fond de ça. Enfin, ils prennent le prétexte d'une élection scolaire. Et l'histoire est très, très bien écrite. D'ailleurs, le texte de David Paquet vient de sortir chez Actes Sud et c'est mérité. Et derrière le parti pris burlesque et virevoltant, il y a vraiment la question de la place du citoyen. Ça suscite la réflexion par rapport à notre impuissance ressentie ou assumée. Ça s'appelle le poids des fourmis parce que les fourmis, c'est nous. Et notre poids peut peser à condition de le vouloir. Et l'autre force de ce spectacle, c'est que ça s'adresse vraiment à toutes les générations. Et c'est en tournée en mars, avril, à Foix, Avignon, Genève, Langres et Lille.
Donc je répète, le poids des fourmis de la compagnie québécoise Théâtre Bluff, qui sera à Foix donc les 27 et 28 mars par exemple. Laurent.
Pas un spectacle, mais deux. Coup fatal et Out of Context for Pina, qui sont des reprises, des spectacles phares d'Alain Platel. Il est en train de remonter deux pièces, quelquefois avec les comédiens d'origine ou les danseurs d'origine. Alain Platel, c'est vraiment un des maîtres, mais maître au sens humaniste de la danse belge des années 2000. Et là, ces deux spectacles, c'est un des premiers à avoir convoqué sur scène véritablement des spectacles monde avec des interprètes de toutes les origines. Ça chante et ça danse véritablement dans toutes les langues. Ce sont deux spectacles emblématiques de ce qui se jouait de façon le plus humaniste qui soit sur les scènes dans les années 2000. Et c'est à voir en ce moment, donc, 20 au 22 mars à Créteil, 25 mars à Villejuif dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne. Ensuite, ça passe au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et pour Out of Context, ça sera du 7 au 9 avril au 104 à Paris.
Fabienne.
Alors moi, c'est une amante anglaise qui nous vient de Vidy-Lausanne et qui va arriver à l'Odéon jusqu'au 12 avril. Elle est mise en scène par Émilie Chariot. Alors, c'est pas la mise en scène qui m'a tellement bouleversifiée, mais c'est le jeu de Dominique Raymond, qui est une amante anglaise absolument comme je n'en avais jamais vu. C'est-à-dire que c'est l'anti-Sandrine Bonner qui était un peu opaque et fiévreuse. Elle arrive, elle est souriante, lumineuse, taquine, elle est drôle. Elle fait même penser à Zouk parfois et elle n'en est que d'autant plus inquiétante parce qu'on a l'impression que c'est le visage de la mort même qui vient faucher comme ça, sans raison, sans explication, les êtres comme Claire Lanne dans la pièce de Marguerite Duras a tué sa cousine qu'elle trouvait trop grosse. Donc elle est éblouissante. Dominique Raymond à l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'au 12 avril.
Pour l'amante anglaise. Et je termine avec la parole d'un auteur et metteur en scène qui vient d'annoncer son départ anticipé du Théâtre National de la Colline. Donc il part un an, il a annoncé qu'il partait un an avant la fin de son mandat, c'est Wajdi Mouawad. À l'invitation de l'historien Patrick Boucheron, Wajdi Mouawad est invité à donner une série de leçons
au Collège de France. Alors, on peut se rendre sur place, c'est le mardi entre 9h et 10h30, sauf qu'il y a la queue, c'est complet. Et pour qui n'est pas parisien, sa leçon inaugurale est visible sur le site du Collège de France ou sur la chaîne YouTube du Collège de France. Et là, vous assistez à la parole d'un homme qui, je cite, « souhaiterait voir gravé au fronton de notre si malmené ministère de la Culture cette phrase de Jean Genet. « Je ne suis pas là pour t'éduquer, je suis là pour t'enflammer. » Et la parole de cet homme, c'est exactement ça. Il enflamme avec sa respiration tremblée qu'on sent parce que le micro est tout près, avec sa colère, avec son humour. Il s'étonne que lui, le cancre, soit convié à donner une leçon, un cours dans une pareille institution. Et il enflamme surtout avec sa pensée. Je n'ai pas tout compris tout le temps.
Il déverse son sang aussi.
Et il déverse son sang. Mais là, tu spoiles la fin. Mais je n'ai pas, en tout cas, j'ai pas tout compris, mais j'ai jamais été perdue parce que j'ai été happée par la parole de ce créateur qui vient pas là pour expliquer ou faire la promo de ses créations, mais pour livrer une vision du monde. Donc cette série de cours de Wajdi Mouawad a lieu au Collège de France tous les mardis jusqu'au 8 avril. L'audio de ses cours est disponible sur le site du Collège de France, comme la vidéo de sa leçon inaugurale que vous pouvez aussi voir sur YouTube. Sandrine Blanchard, Pierre Lesquelaine, Fabienne Pascaud, Laurent Goumard, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode du Masque. Le prochain enregistrement de l'émission aura lieu à Lyon, le vendredi 4 avril à 17h au festival Quai du Polar pour un masque spécial polar. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur le site du festival dans l'onglet billetterie. Et ça se passera au théâtre Comédie Odéon. Le Masque à Lyon, Quai du Polar, je le redis, vendredi 4 avril au théâtre Comédie Odéon. Je me répète. Hein. Guillaume Giraud réalise l'émission et c'était avec Cédric Chatelus, Titouan Labarre, Nicolas Depagraf et Leslie Horowitz aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation de l'émission avec Nina Malray. Rendez-vous dimanche prochain pour débattre de l'actualité du cinéma sur France Inter, évidemment.